Vous avez fait appel à moi parce qu'on vous a dit que j'étais le meilleur.
Marceau le midi. Avec Marceau, Pascal CV et Thomas Gauthier.
418-971-1021, 418-971-1021. On est un peu en retard. On respecte pas le plat, Tom.
De quoi on respecte
mais
pas
c'est
le
parce que ça s'appelle le quotidien. Là.
Ça s'appelle le quotidien.
Oui, effectivement.
De pas respecter le plat.
Ça nous rend attachants.
Ben oui, c'est ça. Puis il y a un autre qui est attachant et qui se joint à l'équipe, c'est Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Salut Nicolas!
Salut tout le monde, ça va bien?
Yes. Oui, ça va très bien. Est-ce qu'il fait beau dans ton Laval magique à Montréal?
Oui, oui. Incroyable. Quand même, il faisait quasiment moins 2 hier, puis là, il fait 18, donc c'est fantastique. On sent le printemps pour vrai.
Mais hey. Laval est magique dans la même phrase, Yannick. Je pense qu'il faudrait se retenir. Là.
Là, j'allais faire vraiment une joke toxique. Là, fait que je vais.
Avec le sujet de Nicolas.
Non, non, avec le jeu de mots Laval. Nicolas Gagnon, tu t'occupes, toi.
On connaît bien le jeu de mots.
Tu t'occupes, toi, de protéger ton organisation, la Fédération canadienne des contribuables, s'occupe de protéger le contribuable. Juste vous dire que dans les prochaines années, parce que ça semble être assez répandu au Québec, là, des maires et des mairesses qui semblent pencher d'un bord, puis ça me fait peur un peu. Je veux te faire entendre la citation du maire de la Ville de Québec, une citation qui a faite le 19 avril 2024. On en a jasé un petit peu tantôt avec Pascal, parce que je trouvais que ce que le maire Marchand, la comparaison qu'il faisait pour faire passer ses idées versus un autre pays, ça n'avait pas de maudit bon sens. Je te fais entendre ça, puis je vais entendre ton opinion par la suite. Voici le maire Marchand durant la période des questions le 19 avril dernier.
Je peux vous dire qu'en Chine, il se prend de grands virages. Avec leur type de gouvernement, il n'y a pas beaucoup de consultations. Quand les virages se prennent, ils les prennent rapidement. Et en général, ils peuvent être plus rapides à faire les changements que nous, de par leur capacité à implanter, imposer des changements. Nous, pendant ce temps-là, on fait quoi? On attend. On attend que la Chine se bouge, on attend que l'Inde se bouge encore plus, on attend qu'eux autres soient encore plus prêts à faire avec leurs initiatives du commerce mondial.
Donc, Nicolas, juste te dire que si toi, tu faisais le même travail en Chine que tu fais actuellement au Canada pour les contribuables, tu disparaîtrais. Et ça, ben, ça semble être très respectable comme façon de faire pour faire passer ses idées.
Ben écoute, effectivement, ça n'a pas de bon sens. Puis oui, on s'entend, la Fédération canadienne des contribuables, on pourrait pas exister en Chine. Là-bas, tu dénonces un petit peu trop le gouvernement ou tu essaies d'exposer un peu trop de dépenses qui font aucun sens, puis tu peux te ramasser en prison pour bien moins que ça. Mais oui, de voir des maires comme Bruno Marchand faire des sorties comme ça, où est-ce qu'on fait l'apologie de régime, ou est-ce qu'on peut aller plus vite qu'ailleurs parce qu'on a un type de gouvernance qui fait fi des consultations publiques, qui fait fi des élections ou des processus démocratiques.
C'est un gouvernement totalitaire, c'est un gouvernement communiste, puis lui, ben, il nous parle de ça comme si c'était une belle façon de faire pour faire passer les propres idées du gouvernement. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ta job va être de plus en plus difficile, Nicolas Gagnon, je te l'annonce.
Il y a des fortes chances, surtout que ce n'est pas la première fois non plus qu'on entend ce type d'apologie-là d'un régime comme celui de la Chine. On se rappelle que notre cher premier ministre, M. Justin Trudeau, avant d'être élu en 2015, il avait été pris dans une conférence où est-ce qu'il a justement dit que la dictature soft en Chine faisait en sorte que ça donnait un levier de plus au gouvernement pour accélérer certains projets. Je veux dire, OK, c'est bien beau, mais il y a d'autres manières pour faire en sorte que les projets vont de l'avant au-delà de juste faire taire la population puis mettre en prison les gens qui s'y opposent. Puis c'est le fun parce que dans le même extrait, Bruno Marchand n'a pas juste parlé de la Chine, quoi que c'est pas mal le régime dont il semblait faire un peu plus l'apologie, mais il a aussi parlé de l'Inde. C'est drôle parce que l'Inde, c'est pas une dictature, on va se le rappeler, là, c'est la plus grosse démocratie sur Terre, en fait. Mais ce qui est intéressant à mettre en parallèle avec l'Inde, c'est que c'est aussi une des économies qui est le plus en développement, qui est le plus en croissance, ce qui fait en sorte que vous avez des investisseurs, vous avez énormément d'investisseurs qui s'intéressent à l'Inde parce que l'économie... Elle se développe tellement rapidement que le retour sur investissement est beaucoup plus intéressant pour un investisseur qui va en Inde versus le Québec. Ça, ben, faut quand même regarder justement qu'est-ce qui fait en sorte que des gros investisseurs vont venir, se joindre à l'effort de l'Inde, par exemple, pour leurs efforts en termes de transition énergétique. D'ici 2030, ce pays-là va avoir 50% de son énergie va être du renouvelable. Ça vient en très grande partie d'investisseurs investissements privés.
Ouais.
Et pourquoi ces investissements privés-là ont lieu? Ben oui, la croissance, moins d'impôts, moins de taxes, moins de réglementations. Donc, en contrepartie, vous avez l'exemple qu'il a pris où est-ce qu'on parle d'une dictature comme en Chine. Ben, ça aurait été le fun qu'il parle un peu plus longuement de pourquoi l'Inde, à plusieurs égards, est un peu plus intéressant pour les projets que lui envisage pour le Québec et au-delà.
Exact. Autre sujet avec lequel j'ai discuté avec Pascal et Tom hier, c'est ce qui se passe aux Îles-de-la-Madeleine. J'ai fait entendre un extrait du conseil de ville où certains résidents de des Îles-de-la-Madeleine disent « Attends un peu, là, je ne sais pas trop ce qui se passe, là, mais moi j'habite aux îles depuis ma naissance, puis je vais devoir montrer une preuve de résidence comme quoi j'habite aux îles quand je sors de l'île ou même quand je rentre de l'île. Les Îles-de-la-Madeleine qui veulent imposer une taxe supplémentaire de 30 $ par personne à quiconque décide de visiter les îles de la Madeleine. C'est un précédent au Québec. Est-ce que tu me disais c'est que ça existe ailleurs au Canada?
Ben, en fait, j'avais vu quelques exemples, en fait, où est-ce que ailleurs au Canada, par exemple, pour aller aux îles aux chutes Niagara et autres, vous allez avoir différents tarifs qui s'appliquent pour les touristes, essentiellement pour visiter des parcs nationaux, entre autres. Mais j'ai fait une révision rapide, puis effectivement, c'est la première fois qu'on a vraiment une région qui est découpée où est-ce que vous devez faire un paiement pour y avoir accès.
Mais généralement, elle est particulière, cette région-là. Tu sais, il n'y a pas de système pour les vidanges d'assainissement, des brûleurs, des sols, elle s'effrite. Un enjeu de préservation, est-ce que je dis que c'est bon ou pas, cette taxe-là, c'est pas ça que je dis, mais il y a quand même des complexités que nous, on ne vit pas ailleurs au Québec. Là.
Moi, j'aurais comme l'impression d'aller au zoo. Attends un peu, vous venez ici, c'est 30 $ pour visiter l'île et les résidents.
Ah, Yannick!
L'île d'Anticosti, tu n'as pas ce genre d'affaires-là.
Ben, tu n'as pas les mêmes enjeux.
L'île d'Orléans, tu n'as pas cette affaire-là
pas
non
les mêmes
plus.
Enjeux.
Oui, puis ça, ben surtout que tu sais, dans tous ces cas-là, c'est quand même les plus petites régions encore. Pour l'île de la Madeleine, c'est environ 12 000 habitants.
Ouais.
Donc c'est quand même non plus pas la région la plus peuplée du Québec. C'est sûr que c'est une manne à touristes. On s'entend qu'il y a toujours des centaines de milliers de personnes qui vont je pense que c'est à peu près ça, là, qui vont à chaque année sur l'île. Sauf que je trouve ça bizarre parce que d'une part, on dit que ben en fait, on se vend d'être une attraction touristique, puis on s'entend que les attractions touristiques, généralement, ça crée des retombées économiques. Mais d'un autre côté, on accuse le tourisme d'emmener des coûts supplémentaires à l'île. Ne serait-ce que parce qu'il y a des infrastructures à prendre en charge et tout ça, puis on comprend le principe, mais comment ça se fait que ce tourisme-là n'amène pas les retombées économiques suffisantes pour permettre aux îles de la Madeleine de se doter de meilleures infrastructures et d'avoir des meilleurs revenus? Puis là, l'affaire, c'est qu'on me dit d'une part, ben là, c'est pas 30 $ qui va faire tourner de bord les gens. Parce qu'on s'entend que, bon, 30 $ généralement, pas mal, tout le monde peut payer ça surtout pour leurs vacances en général. Mais de l'autre côté, quand on regarde le prix pour une famille, on parle plutôt de 100 $ par famille plus taxes. C'est sûr, encore une fois, 100 $, c'est pas, vous allez dire, c'est pas énorme, mais tu sais, ça n'en reste que c'est des charges qu'on ajoute à un moment où est-ce qu'on sait que les prix de l'essence ont augmenté, vont possiblement encore augmenter cet été, comme on était habitué durant les périodes des vacances de la construction. Donc, c'est juste ajouter un fardeau supplémentaire sur le dos des contribuables qui vont essayer de prendre des vacances dans ce coin-là. Donc, je peux comprendre à la limite que les gens vont accepter peut-être de payer ce prix-là, mais il faut pas non plus se faire croire que c'est un incitatif de charger des gens et de dire, ben ça va leur permettre d'encourager leur région. Puis effectivement, c'est du jamais vu. On n'a jamais eu une région au Québec qui était coupée du reste où est-ce qu'on vous dit, ben, si tu ne payes pas, tu ne peux pas y aller. Pour l'instant, ils disent qu'il n'y aura pas d'amende ou autre. Ou du moins, ils disent qu'il n'y aura pas de gens qui vont être mis en prison. Mais en contre, on a quand même l'amende à 1 000 $ là, qui a été mise de l'avant par le maire qui dit carrément que ben, les récalcitrants vont se faire facturer un gros bill, littéralement.
Moi, j'aurais une citation à faire. J'ai un grand respect pour Kim Jong-un dans sa façon de faire les choses. J'ai un grand respect pour Xi Jinping en Chine pour sa façon de faire passer ses idées. Et si jamais il y a des gens qui n'ont pas d'affaires en Corée du Nord ou en Chine, j'ai plein d'idées là, pour m'en occuper. Puis sachez que vous ne les reverrez jamais. Ça se dit-tu, ça? Non, hein, ça se dit pas. Ça se dit pas.
Non. Pose la question, s'il répond, mon chum.
Mais il y a une affaire que j'ai trouvé intéressante, par contre, dans la chronique qui a été publiée aujourd'hui par Patrick Lagacé, justement par rapport en réaction à à l'histoire des îles de la Madeleine. Parce que le maire de la ville, Antonin Valiquette, ben lui, il ramène constamment le principe d'utilisateur-payeur. T'sais, comme quoi est-ce que ben les gens doivent payer pour l'utilisation des infrastructures pour se rendre aux îles de la Madeleine, de la même manière qu'on doit le faire, par exemple, pour payer pour le pont de la Confédération pour se rendre aux îles du Prince-Édouard. Il faut rappeler une chose, les îles du Prince-Édouard, c'est quand même une province, c'est pas c'est pas un territoire dans un ben je veux dire c'est pas un territoire dans une province par exemple, donc les gens aux îles du Prince-Édouard peuvent à l'île du Prince-Édouard pardon peuvent quand même bouger d'une région à une autre sans aucun problème. C'est vraiment juste pour prendre en charge l'infrastructure comme telle. Mais si on est pour appliquer le concept du loteur-payeur, je suis désolé, mais les 12 000 Madelineaux auraient bien de difficulté, par exemple, à subvenir à bien des besoins qui ont présentement, que ce soit pour payer pour leur hôpital, pour l'aéroport, pour le port. Il en reste qu'il y a une bonne partie de ces infrastructures-là qui sont payées par les contribuables québécois. Ouais.
Pour le diesel, pour le diesel qui les fournit en électricité sur l'île?
Ben exactement. Je veux dire, à la fin de la journée, en tout respect pour les 12 000 Madelineaux, c'est pas eux qui ont payé pour l'ensemble des infrastructures, ou ils payent pas nécessairement pour toutes les infrastructures dont ils bénéficient. Donc, de dire qu'on va facturer les autres contribuables du Québec sur le principe du loteur-payeur parce qu'ils vont aux îles de la Madeleine, je trouve que c'est quasiment hypocrite. Parce
que ça, je trouve ça intéressant. C'est la première fois qu'on l'amène sur la table. On n'a pas sur la table cette vision-là. Elle est intéressante à considérer aussi dans tout ça. Je sais que l'effritement des îles est considéré énormément dans tout ça pour la préservation. Ça leur coûte cher, puis ils n'arrivaient pas à avoir les moyens pour le faire, puis ça diminue d'année en année. Les terrains diminuent et autres. Là. Mais c'est intéressant, c'est Nicolas, cette vision-là.
Bien, c'est ça, mais surtout qu'on parle, par exemple, de sécuriser la route 199, parce qu'il y a eu quand même, avec les tempêtes des dernières années, oui. Il y a eu énormément d'effondrements et tout ça. Donc, juste sécuriser cette route-là, aux îles de la Madeleine, ça va coûter 32 millions de dollars.
Mais c'est essentiel de le faire. Tu sais, je suis allée 6 fois, puis c'est fondamental la différence entre toutes les fois où j'y ai été. Là. C'est fulgurant, je te dirais. Là, ça va extrêmement vite parce que c'est très venteux. Puis, il y a beaucoup de touristes qui s'en foutent, hein, qui trouvent ça tellement beau qu'ils vont aller se mettre un peu partout. Puis, c'était pas légiféré, là, le camping et autres aux îles de la Madeleine pendant longtemps. Maintenant, ça commence vu l'attraction touristique qui a augmenté puis défoncé en pandémie. Là. Puis, là, ils se sont dit, oh, il faudrait un petit peu plus réglementer tout ce qui s'y passe parce que justement, ça nuit à l'écosystème puis ce que sont les îles, parce qu'on veut que ça existe longtemps. Mais ça vient peut-être de là aussi, peut-être les abus qu'on a vus dans les dernières années.
Ben, exactement. Donc, il y a une part de responsabilité que tous les contribuables peuvent prendre en charge de la même manière que si, par exemple, on fait un pont à Québec, le troisième lien, ben, il y a des gens des îles de la Madeleine qui vont payer pour, inévitablement, avec leurs taxes et impôts, sans nécessairement emprunter ce pont-là une seule fois dans leur vie. Mais il en reste que ça va dans les deux sens, à mon sens. Puis de juste ajouter une taxe de 30 $ même si c'est juste 30 $ n'en reste que c'est un dangereux précédent à mon sens. Surtout que, je veux dire, ça pourrait mener à d'autres personnes à imiter cette initiative pour d'autres régions. On veut pas que les régions se ferment sur le principe que le tourisme coûte cher. Au contraire, on devrait plutôt encourager le tourisme. Il devrait clairement avoir d'autres initiatives mises sur la table. Peut-être pas de la part des îles de la Madeleine, mais de la part du gouvernement du Québec pour rendre le tourisme plus agréable, plus intéressant, puis faire en sorte que les retombées soient orientées directement vers les régions qui devraient en bénéficier plus. Mais de là à dire que c'est toute personne qui n'avait pas aux îles de la Madeleine, donc il y a quasiment 9 millions de Québécois qui doivent maintenant payer pour se rendre aux îles de la Madeleine juste parce qu'ils n'habitent pas aux îles de la Madeleine, je trouve que ça envoie un mauvais signal, puis c'est pas vraiment la bonne façon de faire si on veut maximiser des retombées économiques puis vraiment profiter du tourisme, peu importe la région où est-ce qu'on est au Québec.
Qui vivra, verra, mais la dernière des choses, c'est de laisser de l'argent dans les mains des policiers, parce que chaque fois que la politique s'occupe de quelque chose, c'est bien rare que la patente s'améliore. Souvent, ça se rempire. Hey, je sais pas si tu as vu ça passer, c'est sorti aux alentours de 12h04 sur le Journal de Québec. On parle de l'impôt sur le gain en capital qui va faire fondre le déficit d'un milliard. C'est ce que mentionne Éric Girard. Éric Girard qui était très heureux d'ailleurs parce que le fédéral a décidé d'y aller de l'avant avec le gain en capital. Puis Québec va emboîter le pas, puis on va aller chercher un milliard de plus. Donc le déficit qui était prévu à 11 milliards risque d'être maintenant à 10 milliards de dollars. C'est ce que Girard a mentionné en commission parlementaire. Il a réitéré que cette mesure va permettre au Québec de toucher 3 milliards de plus que prévu au cours des 5 prochaines années. Puis juste pour rappel, là, le gain en capital, c'est le profit tiré de la vente d'un chalet, d'un plex, d'une résidence secondaire ou encore des actions. Le budget fédéral qui a été déposé la semaine dernière prévoit faire passer de 50 % à 66 % la part de profit imposable au-delà de la première tranche de 50 000 $ et la mesure va entrer en vigueur le 25 juin prochain et Québec a décidé jeudi dernier de faire la même chose.
Exact. Puis on vient de voir que, dans le fond, il espère aller chercher pas loin de 3 milliards de dollars en revenus supplémentaires au gouvernement du Québec au courant des 5 prochaines années. Je veux dire, bon, On l'a déjà dit à plusieurs reprises pour le budget du Québec, on l'a répété pour le budget fédéral, qu'on peut le répéter encore aujourd'hui. Le gouvernement, à n'importe quel niveau, n'a pas un problème de revenus, il y a un problème de dépenses. Et là, malheureusement, ben, il s'attaque au problème dans la mauvaise direction. Surtout qu'Éric Girard, je trouve ça quand même quasiment un aveu de manque d'originalité, parce qu'ils ont attendu que le budget fédéral sorte pour s'inventer de nouvelles mesures puis aller chercher des revenus supplémentaires. Puis, ah, c'est brillant, on peut maintenant aller chercher de l'argent autrement. Ils attendaient essentiellement que le gouvernement fédéral fasse un geste en ce sens pour qu'au Québec, on fasse essentiellement ce que les autres provinces ont déjà fait auparavant, c'est-à-dire harmoniser la taxe sur le gain de capital. Donc, à tous les niveaux, c'est vraiment une taxe qui va s'élever à 66%, du moins le taux d'inclusion fait en sorte que toute transaction, tout gain en capital supérieur à 250 000 $ va être taxé à la hauteur de 66%. Essentiellement, il n'y aura pas de manière pour que ce soit qui habite au Québec ou à l'extérieur du Québec d'y échapper. C'est sûr que d'une part, on dit, OK, félicitations, on va réduire le déficit. On n'aura donc pas un déficit de 11 milliards cette année, c'est plutôt un déficit de 10 milliards. Chaude main d'applaudissement, mais ça reste encore le pire déficit à travers toute la Confédération canadienne, même si on arrive à aller chercher 1 milliard de $ supplémentaires en revenus. Mais de voir que le gouvernement du Québec n'a pas essayé d'envisager d'autres alternatives, couper dans les dépenses ailleurs, couper dans certaines subventions et autres. Non, on a préféré miser davantage sur d'autres mécanismes pour aller chercher des revenus. Et on n'a même pas essayé de voir si, d'augmenter l'impôt sur le gain de capital aura un impact sur la productivité au Québec. On sait qu'on tire énormément de la patte par rapport à nos voisins directs sur la productivité à cause de nos impôts, de nos réglementations et du poids en général sur les entreprises. Et puis là, on se dit, ben c'est pas grave, on va quand même augmenter l'impôt sur le gain en capital, puis on verra ce que ça donne d'ici quelques années, mais au moins, on aura des revenus supplémentaires. Mais en reste que tu as plusieurs acteurs, entre autres l'ancien ministre des Finances, M. Bill Morneau, au fédéral, qui ont fait des sorties pour dénoncer ça. Et là, présentement, de la part de plusieurs firmes, on observe vraiment une vague de groupes, d'organisations, d'investisseurs qui se demandent comment est-ce qu'ils vont vendre leurs actifs d'ici le 25 juin pour éviter de subir en fait les nouveaux la nouvelle imposition sur le gain de capital. Donc bref, ça a envoyé un très mauvais signal à peu près tout le monde, sauf peut-être pour Éric Girard qui s'est dit que lui, ce serait intéressant d'imiter ce que le fédéral vient de faire. Donc oui, c'est une semi-bonne nouvelle quand on regarde les chiffres. Peut-être moins gros que prévu le déficit cette année. Mais à long terme, ça risque d'avoir un impact sur la productivité puis sur les investissements au Québec.
Mais sont-ils capables d'administrer? Puis depuis que je suis jeune, tu es un peu plus jeune que moi, Nick, mais depuis que je suis jeune, je sais que lorsque je serai rendu à 65 ans, il restera plus d'argent pour moi parce que les gens qui sont passés avant moi vont avoir eu besoin de cet argent-là. Même si j'ai tout le temps contribué, j'en aurai pas assez pour ce que le gouvernement va me donner pour vivre. Ce qui fait en sorte que depuis que je suis jeune, je me mets des trucs de côté qui vont faire en sorte que ça va me servir lorsque j'aurai 60, 65, 70 ans ou même 80 si je me rends là, de la misère à attacher mes lacets. Fait que ça se peut que je me rende pas là. Mais, tu sais, j'ai fait des investissements, puis là, je me rends compte que le gouvernement me va chercher... parce que j'étais responsable, j'étais un investisseur responsable, le gouvernement va aller chercher mon argent que j'ai gagné moi-même. Les investissements que moi, j'ai fait moi-même, ça me tue. Là. Je veux dire, tu sais, moi, tout le monde a des actions. Là, ceux qui placent un peu leur argent ont des actions. C'est moi qui ai pris cette décision-là. C'est mon argent. Puis le gouvernement va aller me chercher ça encore, alors que lui, de l'autre côté, il va l'utiliser d'une façon à ce qu'à un moment donné, il n'en reste plus, puis il va être obligé de venir m'en chercher encore plus dans les poches. Le Canada est rendu un enfer fiscal, puis si on habite au Québec en plus, mais on est dans l'endroit le plus imposant d'Amérique du Nord, c'est une catastrophe ce qui arrive, une catastrophe.
Bien, c'est ça. Puis le pire, c'est que quand ils ont mis d'avant cette fameuse imposition, bien, l'augmentation du taux d'inclusion sur le gain de capital au fédéral, Ils ont présenté ça sous le couvert d'une question d'équité, en disant que c'est pour rendre les choses équitables pour toutes les générations, en oubliant quand même de mentionner au départ de un que les plus riches au Canada, même si on peut leur casser du sucre autant qu'on veut sur le dos, là, mais à la fin de la journée, c'est quand même les riches les plus imposés au monde ou parmi les plus imposés au monde juste après. Surtout avec la nouvelle modification qui a été faite sur le gain de capital. En fait, le Canada va être le troisième pays avec l'imposition sur le gain de capital le plus élevé au monde après le Danemark et le Chili. Donc, il ne faut pas non plus se faire croire que c'est comme si les riches s'en tiraient nécessairement à meilleur compte. C'est sûr qu'ils s'en tiraient à meilleur compte que les gens de la classe moyenne comme vous et moi, mais au final, c'est pas comme si on les épargnait non plus. Et aussi, comme tu l'as mentionné, ben, t'sais, le gain de capital, ça touche tout le monde. Mais tout le monde va faire une vente à quelque part dans sa vie, ou du moins j'espère que tout le monde va pouvoir en profiter d'une certaine manière. C'est vraiment les modifications qui ont été faites qui vont toucher un nombre plus restreint d'investisseurs. Mais on oublie une chose. Dans les chiffres qui ont été présentés au budget fédéral, c'est pas juste 40 000 Canadiens qui sont touchés. C'est 40 000 Canadiens qui sont touchés cette année et qui pourraient être un plus grand nombre l'année prochaine et ainsi de suite, parce que c'est variable. Il y a quelqu'un qui va faire un gain de capital une seule fois dans sa vie. Quelqu'un qui a acheté, par exemple, un duplex ou un triplex il y a quelques décennies, il va le vendre une seule fois dans sa vie pour faire son gain de capital puis avoir droit à sa retraite ou avoir un fonds suffisant pour vivre de ses propres économies. Mais il n'en reste que cette vente-là, c'est pas faite nécessairement par un ultra-riche, c'est pas faite à plusieurs reprises. Donc, les chiffres qui sont présentés nous laissent croire que ça va affecter une très petite minorité de Canadiens et qu'au final, il ne faut pas s'inquiéter sur l'impact que ça va avoir sur l'économie. Mais la réalité, c'est que ça va avoir un impact à long terme et ça impacte plusieurs générations d'investisseurs de différentes classes. Et donc, essentiellement, non seulement cette mesure-là n'est pas équitable pour toutes les générations, mais elle fait en sorte que des gens qui ont pris le temps d'économiser plus tôt dans leur vie, de faire des investissements à risque, ben, ils sont maintenant pénalisés parce que le gouvernement dépense trop, littéralement.
C'est incroyable. Puis, tu sais, là, c'est pas encore rendu pour la résidence principale, lorsque tu vas vendre ta résidence principale, mais je te garantis, Nick, que ça va se faire. Je te garantis qu'un jour, le gouvernement va dire « OK, on va y aller avec le gain en capital sur la résidence principale. » Puis, il y en a beaucoup qui misent là-dessus pour leur retraite. T'sais, quand tu vas vendre ta maison avec un genre de, je sais pas moi, un genre de 200 000 de profit, c'est le cas des gens qui ont acheté leur maison dans les années fin 70, début 80. Il y en a qui ont fait 200 puis 300 de profit. Eux autres sont corrects jusqu'à la fin de leur jour. Là. En tout cas, du moins, je leur souhaite. Mais nous autres, ils vont venir nous chercher sur le gain en capital pour ce qui est de la résidence principale. Dans les 10 prochaines années, c'est une prédiction de Jojo Marceau.
Ben, c'est une bonne prédiction, mais j'espère que tu te trompes, par exemple. Ben, y a une chose, par exemple, c'est qu'au courant des dernières années, on a découvert que le gouvernement fédéral avait commandé une étude à la hauteur de 250 000 $ pour voir ce serait quoi les différentes options dont ils bénéficieraient pour le gain de capital. Et il y avait deux possibilités qui étaient mises sur la table. Une chance, ça n'a pas été mis de l'avant dans aucun budget jusqu'à maintenant. Mais c'est pas des blagues. La première, c'est on devrait peut-être mettre le taux d'inclusion du gain sur le capital jusqu'à 100 %. Ça, c'est une des options envisagées. Ou effectivement, d'introduire tranquillement l'imposition du gain en capital sur les résidences principales. Donc, ça fait partie des options qui sont déjà envisagées par le gouvernement fédéral, ne serait-ce qu'à long terme. On espère que ça ira pas de l'avant. Pour l'instant, on ne parle que d'une étude qui a été commandée pas mal au lendemain de la pandémie parce qu'on envisageait que l'état des finances publiques allait nécessiter d'autres revenus parce que jamais le gouvernement fédéral considère qu'il dépense trop. C'est toujours l'inverse. Mais il n'en reste que, effectivement, on n'est pas au fond du tunnel pour l'instant. On voit pas encore la lumière, mais on espère une chose, que le gouvernement va arrêter de s'en prendre à notre portefeuille, aux petits comme aux gros investisseurs, puis fasse le ménage dans les finances publiques comme il se doit.
Nicolas Gagnon, on va terminer avec ça. Qu'est-ce qui se passe avec Caroline Proulx? Est-ce qu'elle aurait menti aux Québécois dans le dossier du Stade olympique?
Ben non, elle dit 100 % la vérité. Donc, je vais pas l'accuser de mentir, attention. Mais il y a quand même tout un concours de circonstances exceptionnelles. Tout le monde s'en souvient, le 5 février dernier, la grande annonce, un nouveau toit pour le Stade olympique. Ça va coûter 870 millions. C'est un toit qui est magique parce que ça va doubler les retombées économiques du stade. Ça va attirer deux fois plus de spectateurs à chaque année, puis trois fois plus d'événements. Bref, c'est un toit qui, comme on n'a jamais vu dans l'histoire du Québec. Sauf que la semaine dernière, durant les études de crédit, à l'Assemblée nationale, M. Fitzgibbon s'est fait poser des questions par les députés de l'opposition officielle, entre autres la députée Philomena Rossi-Rossi du Parti libéral, puis il s'est fait poser la question à savoir si, d'une part, il avait vu... la première question qu'il s'est fait poser, c'est est-ce que le stade va coûter plus cher que prévu? Est-ce que les rénovations vont être plus élevées que prévu? Lui, il a déjà dit, en partant, oui, il va avoir des surcoûts, notamment par rapport au toit, mais aussi par rapport aux autres rénovations qui vont être nécessaires à l'intérieur. Juste encore une fois, par rapport aux rénovations qui sont prévues dans le fameux 870 millions. Donc déjà, on sait que ça va coûter plus cher que prévu. Mais dans le même souffle, il nous révèle qu'il n'a pas lu les études économiques. Et là, ça nous fait un petit peu... ça nous crée vraiment une situation inconfortable, autant pour nous, pour les contribuables, que pour le gouvernement, parce que, d'une part, on a soumis des demandes d'accès à l'information pour savoir combien ça allait coûter. C'est quoi les fameuses projections, les études économiques sur lesquelles ils se basent pour dire qu'un nouveau toit à 870 millions, ça attire 1 million de spectateurs à chaque année de plus, soudainement. Ils n'ont jamais été en mesure de nous fournir ces documents-là. L'opposition a également envoyé des demandes d'accès à l'information, sont revenus bredouilles, ils n'ont rien reçu de leur côté. Et par-dessus le marché, ben là, on a le ministre qui sait que ça va coûter plus cher, mais il n'a pas vu les études. Le ministère du Tourisme ne veut pas nous les révéler. Fait que là, on se demande finalement, le 5 février dernier, toutes les fameuses promesses qui ont été faites par rapport au nouveau toit, c'était basé sur quoi finalement? Est-ce que ça a été mis sur une napkin? Est-ce que ça a été mis sur un fichier Excel à quelque part? Pour l'instant, on ne l'a pas. Et malheureusement, on peut seulement assumer une chose. Soit le gouvernement fait preuve d'un grand manque de transparence en ne révélant pas tous les chiffres ou au minimum les études qui nous permettent de voir un peu plus clair dans les coûts qui s'en viennent pour le stade olympique. Ou d'un autre côté, ben ils n'ont pas fait leur devoir. Ils nous ont présenté des chiffres qui sont basés sur absolument rien. Et oui, au final, ben les contribuables, c'est le dindon de la farce. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement du Québec arrête de jouer avec la POC, nous livre les chiffres en bonne et due forme, comme on l'a demandé dans les différentes demandes d'accès à l'information. Ou sinon, ben oui, on doit prendre pour acquis qu'ils vont nous construire un nouveau toit à partir de aucune étude. Et c'est inacceptable. On parle de quasiment 1 milliard de dollars en rénovation pour une infrastructure qui est, somme toute, encore vide. Il n'y a pas d'équipe de sport, pas d'équipe sportive au Stade olympique présentement.
Ouais.
Et on essaie de nous faire passer ça, c'est comme si